On va vous apprendre des choses, vous en faire comprendre. On va vous divertir, vous accompagner. On va vous faire rire, vous faire fâcher. Le FM 93, c'est de l'audace, c'est du mordant, c'est du professionnalisme. Le FM 93, c'est tout ça et plus encore. FM 93.
Ça me
parle.
FM 93.
Ségal, le midi, avec Myriam Ségal et Jeff Blanchette. FM 93.
Ici Myriam Ségal. Le port de Québec va de l'avant avec un super terminal de conteneurs près de la baie de Beauport. Collision en vue avec des écolos. Les détenus devraient-ils avoir Internet en prison? Le comité soi-disant non-partisan sur la protection de la jeunesse a déjà du plomb dans l'aile, ça se tiraille déjà. Et c'est quoi la maudite folie de faire la file d'attente pour monter sur l'Everest?
Myriam Ségal, Jeff Blanchette, Ségal, le midi.
FM 93.
Bon, j'ai récupéré un millénial.
Myriam!
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi.
Es-tu reposé?
Oui!
OK. T'as juste pris une semaine de vacances. Et il faut dire à nos auditeurs, je me suis moqué un peu de vous autres hier en disant oh, « ils sont pas tough, ces jeunes-là ». C'est parce qu'ils vont être là tout l'été. Hein? Pendant que nous
c'est ça qui arrive. Toi, tu prends des longues vacances pendant que nous, on va tenir le fort à ta place.
Exact.
Mais j'ai profité d'une petite semaine. Je me suis promené dans la province. Canton de l'Est, je suis allé dans Portneuf, vallée de la Jacques-Cartier. J'ai fait de la randonnée. Donc, j'ai profité de la nature, puis j'ai profité de notre beau Québec, même si c'était un peu plus frais que je l'aurais espéré.
Puis j'imagine que dans la vallée de la Jacques-Cartier, t'avais pas une file d'attente de 320 personnes pour monter au sommet, par exemple, de l'Éperon.
Non, effectivement, il y avait des autobus scolaires au début du sentier. Il y avait des jeunes d'âge primaire. Mais une fois que j'ai passé ce segment-là, là, j'ai pu me retrouver tout seul. La sainte paix dans le bois, comme je la souhaitais. Puis j'ai bien apprécié.
Le maire Labeaume a profité de ton absence pour revenir.
Et se laisser pousser la barbe.
Oui.
On est rendu deux, au moins.
Hier, là, quand j'ai parlé de la publication un peu étrange de Catherine Dorion qui fait l'éloge de Mes Poils, qui est un espèce de mouvement soi-disant féministe, comme si le féminisme avait quelque chose à voir avec la pilosité, là, qui dit « laissons-nous pousser les poils », Catherine Dorion s'est fait photographier avec l'aisselle en gros plan pour montrer qu'elle a du poil à l'aisselle.
C'est magnifique, oui.
Je disais, quand est-ce qu'on a décidé que le poil, c'était sale? Puis je faisais remarquer que les milléniaux, là, ils ont toute la barbe, ou presque. À part Benjamin, parce que ça vient pas à bout de pousser.
Non, c'est vrai pour Benj, mais je me suis fait dire que c'était plus à mode.
Moi aussi, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais dans le champ, que c'était la mode hipster était passée. Je regardais les joueurs de hockey hier soir, Samuel Blais, c'est une barbe.
Ouais, mais c'est la barbe des séries, celle-là. C'est pas une vraie barbe. C'est pas une vraie barbe de hipster.
Ben là, les Sharks, ils les ont gardés.
Ouais.
Mais même à l'année, là, t'as de plus en plus de jeunes joueurs de hockey qui ont la barbe.
C'est vrai.
Regarde la coupe mémoriale, là. La barbe, à mon avis, est en train de revenir. En tout cas, dans mon entourage, tous ceux qui sont capables se la font pousser.
Puis là, ils nous vendent des produits, hein, des huiles. Je suis allé chez le barbier, justement, en fin de semaine, puis je me suis fait toiletter. Et ils nous vendent un paquet de produits, hein, pour prendre soin de ça, la cire, l'huile, les patentes.
La cire?
J'ai l'impression que c'est un racket du diable. J'ai pas embarqué là-dedans. Mais ils essayent vraiment de nous vendre ça, là, quasiment du revitalisant pour ta barbe, puis tu vas avoir la peau moins sèche en dessous, puis tout. Fait que c'est les problèmes qui attendent M. Labeaume, mais on comprend qu'avec les problèmes qu'il y a eu dans les derniers mois, c'est pas mal plus insignifiant. J'étais content de le voir revenir hier.
Oui, hier, il a commencé par expliquer qu'il est guéri.
Je suis guéri. Bon, évidemment, là, tu sais, il y a des plaies, puis tout ça, c'est à guérir. Mais je suis guéri, c'est ce que mon médecin m'a dit la fin de la semaine dernière. Alors, guéri mécaniquement... Guéri.
Sauf qu'il est conscient qu'il y a des risques de récidive. Mm-hmm. Même s'il a pris les grands moyens, il a été assez généreux sur les détails. Tu sais, moi, je peux comprendre que je trouve important qu'un homme public comme M. Labeaume explique pourquoi il doit s'absenter. Le détail de la façon dont il se fait soigner, etc., je peux comprendre aussi que ça lui appartient.
Il n'est pas obligé d'en parler.
Il n'est pas obligé de... Puis il n'est pas obligé de tout nous raconter. Mais il a été assez généreux de détails. Puis je pense que ça prend une dose de courage pour faire ça, une dose de vraie franchise.
J'ai été opéré, moi, en passant. J'ai pas... On a choisi, nous autres, une méthode plus drastique parce que on visait des résultats plus sûrs. Et donc, les soins, la radio, puis tout ça, c'était pas, ça nous garantissait pas une réussite absolue. Et donc, il y a, ça va faire deux mois cette semaine, j'ai subi une opération où on a fait un grand ménage, la prostate, puis ce qu'il y avait aux alentours. Mais on a gardé ce qu'il fallait, hein, parce que faut en garder un peu qui peuvent être utiles éventuellement. Et j'ai vu mon médecin à la fin de la semaine dernière. Et jusqu'à date, c'est une grande réussite. Et ça se dit, faut être prudent parce que dans ce métier-là, il y a 30 % de récidives. Alors, il y a des gens qui sont dans ma situation, mais ils ont connu des récidives. Alors, je suis content. C'est pas l'énergie que je voudrais, ça me surprend. Parce que normalement, quand j'ai deux, trois bonnes nuits de sommeil... ça va très bien, puis je suis debout, mais là, ça marche pas comme je voulais. Alors, on va prendre le temps. Dans le fond, les médecins ont raison. C'est ça qu'elle veut dire.
C'est ça. Il faut qu'ils prennent le temps. D'ailleurs, il a dit qu'il allait revenir progressivement, une demi-journée à la fois, faire du télétravail le reste du temps.
Oui.
Mais tu sais, c'est un peu comme, si je comparais, c'est un peu comme une femme qui apprend qu'il y a un cancer du sein, puis il dit, garde, mastectomie, là, on prend pas de chance. Mm-hmm. J'irai pas par quatre chemins. On va se passer du sein, ça va être plus simple. C'est un peu le genre de décision qu'il semble avoir pris.
Oui, puis il faut qu'il soit on lui souhaite d'être du bon côté des statistiques, d'être dans le 70 %.
Si tu avais une loterie dans laquelle tu peux gagner, t'as 70 % de chances de gagner, t'achèterais beaucoup de billets. Mm-hmm. C'est quand même une statistique qui est rassurante.
Oui, puis dans le choix des traitements aussi, si ça fait augmenter de quelques points de pourcentage tes chances de rémission complète, même s'il y a des désavantages liés à l'ablation de la prostate, tu dois vouloir les prendre quand même.
J'ai pas sorti l'extrait, mais il a eu un témoignage très émouvant pour tous ceux qui sont dans le système de santé. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'une fois que tu es entré dans le système de santé, le problème de notre système de santé, c'est un problème d'accès.
Ouais.
Une fois que tu es entré dans le système de santé, c'est vrai que tu rencontres des gens formidables, des héros quotidiens qui tous les jours font en sorte qu'au moment où tu es le plus vulnérable dans la vie, il y a quelqu'un qui fait en sorte que tu es bien quand même. Et il a rendu un bel hommage à tous ceux qui sont dans le système de santé. J'ai trouvé qu'il était sensible à cet environnement-là de gens pour lesquels on a relativement peu de gratitude d'habitude. Quoique ceux qui passent dans le système, ils ont cette gratitude-là. C'est ceux qui arrivent pas à rentrer dans le système qui ont de la misère.
Oui, puis sinon, quand on parle d'eux, c'est souvent des questions de salaire, de conventions collectives, de temps supplémentaire obligatoire, qui sont des enjeux réels, là. Mais une fois que t'es dans le système, ces gens-là côtoient des familles, des gens qui souffrent, qui sont éplorés, qui ont des craintes, puis malgré tout, ils sont capables de prendre en charge puis de rassurer. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils font comme travail, ces gens-là.
Il y a plusieurs messages qui rentrent, dont quelqu'un qui dit « C'est quand qu'on va se remettre à détester la baume pour ses idées, comme avant sa maladie? » Oh, ça tardera pas, monsieur, parce que on peut continuer à s'objecter aux idées de quelqu'un, mais c'est pas mal plus fun de se chicaner avec quelqu'un qui est en forme qu'avec quelqu'un qui a un genou à terre.
Mm-hmm.
Bon, dans le cas du maire Labeaume, hier, il est quand même revenu à la charge en disant, regarde là, les maudites folies fédérales, provinciales, là, pour le financement du tramway ou du réseau structurant de transport, je veux rien savoir d'un plan B, je veux rien savoir de réduire les choses.
C'est pas de plan B. Ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Les plans B, ici, on les a tous faits, les plans, là. Il faut bien voir que nous, là, Longueuil pense à son projet. Nous, on pense pas à notre projet. On a eu plusieurs exemples. Alors, il n'y a pas de plan B, nous autres. Il y a un plan, c'est celui qu'on a présenté, qu'on a présenté à tout le monde, avec duquel on a discuté pendant des années, il faut le dire. Ça fait 10 ans de travail, hein. On ne réalise plus. Alors, il n'y a pas de. Puis le projet, je veux juste vous rappeler que tous les partis politiques ont agréé le projet. Hein? Moi, M. Legault, qui était premier ministre, dans mon bureau, il a dit, c'était correct, ce projet-là. Ils l'ont dit publiquement. Alors, la question, c'est pas le concept du projet, c'est pas intrinsèquement le projet tel qu'il est. C'est eux, il faut qu'ils s'entendent sur le financement. Et il ne manque pas d'argent. C'est ce qui est bien, c'est qu'il manque pas d'argent. Il y en a dans les fonds fédéraux, il y a deux fonds qui sont disponibles, il y a le fonds vert, il y a tout ce que vous voulez, il y a beaucoup d'argent dans le système. Et les gouvernements font des surplus en plus. Alors, c'est pas une question de capacité financière, c'est une question politique. Ils feront ça comme ils voudront, qu'ils me le signent. Moi, je veux un contrat. C'est assez simple, ça prend un contrat où le gouvernement s'engage, où la ville s'engage. On appelle ça un contrat et des garanties financières.
Je suis un peu quand même surprise que ça n'ait pas été fait avant. Je suis un peu surprise qu'on arrive là, puis que ça arrive du ciel. Mm-hmm. Me semble que, prudemment, on signe ça avant l'élection, pas après. Puis il y a Bruno qui rappelle au maire qu'on est bien content qu'il soit en forme, mais on n'est toujours pas d'accord avec le tramway.
Oui, c'est ça. Ça change pas notre opinion là-dessus, malheureusement. Je sais pas si le cancer va changer, M. Labeaume, hein? Parce que souvent, tu rencontres des survivants du cancer puis ils disent il y a une vie avant le cancer puis après le cancer. Ça change ta vie personnelle, mais ça peut avoir un impact aussi sur ta vie professionnelle, sur ton attitude par rapport aux enjeux qui te concernent dans la vie de tous les jours.
Tu penses que ça relativise les choses?
Ben, je peux pas. Je parlerais complètement à travers mon chapeau si je disais oui. Là, j'ai jamais survécu à une épreuve comme celle-là, mais j'ai hâte de voir dans les prochains mois. Il est encore tôt pour en parler, mais est-ce que ça va changer, Monsieur Labeaume, comme politicien? Ce sera à voir.
J'ai une autre théorie, moi. Se peut-il que la maladie te rende irascible? Tu sais, il était devenu un peu irascible, le maire Labeaume. Mm-hmm. Bon, il était pas comme ça quand il a été élu, rappelle-toi.
C'est vrai.
Je me rappelle d'une déclaration qu'il avait faite. On peut-tu de temps en temps, avec leur argent, faire plaisir aux gens qu'ils payent? Tu sais, il était devenu irascible. Se peut-il que la maladie l'ait rendu irascible et que la guérison le rende plus serein?
Donc, ça nous ramènerait un M. Labeaume des premiers mandats. Peut-être.
Je pense pas qu'on recule beaucoup dans la vie. Là. Rewind, ça existe pas tout le temps. Là. Bon, mais je ne sais pas là, si c'est la maladie qui te change ou si c'est la guérison qui te change. On va revenir à la barbe?
Bon, c'est un petit clin d'œil quand même. C'est ce qui nous a frappé au visage quand on voyait les unes des journaux ce matin. Pour ceux qui n'avaient pas vu les images hier, que ce soit sur Facebook ou en conférence de presse, il y a une belle petite barbette, M. Labeaume.
C'était du camouflage. Ça n'a pas vraiment marché, d'après ce que je peux voir. C'est que dans les deux, trois premières semaines, c'était pas une priorité de se raser. Puis il y a eu un débat, puis j'ai pas gagné. Voilà.
Mais c'est vrai que ça lui adoucit le visage. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les barbus. Bon, je te fais la confidence. J'aime les barbus.
C'est la première fois que tu me l'as fait. Hein?
Mon père a toujours porté la barbe et il est revenu une fois à la maison. Il avait fait un pari stupide avec des chums, il s'était rasé la barbe. Je suis rentré dans la maison en disant, il y a un monsieur qui ramène la voiture de papa Romain.
Mon père a fait ça avec sa moustache quand j'étais jeune, une fois. Puis les enfants sont occupés qu'il n'arrase plus jamais.
C'est ça.
Ça a changé la face complètement, on était perturbés.
Confidence d'un militaire. Je suis militaire depuis quelques mois. On a le droit de se faire pousser la barbe, taillée bien sûr. Peux-tu te dire que du barbu, il y en a au pied carré? Parce qu'avant ça, c'était obligatoire de se raser. Mm-hmm. C'est l'attrait de la nouvelle liberté.
C'est ça. C'est pas les ambulanciers aussi qui doivent se raser la barbe pour le masque aussi?
Ouais.
Il y a une question là, autour de la bouche. Il faut que le masque soit complètement hermétique dans certaines circonstances. Puis je pense qu'ils ont des restrictions là-dessus dans le monde ambulancier.
Il y a plusieurs. Ben, regarde, les cuisiniers sont obligés d'avoir une espèce de
petit filet
à barbe.
Ben
ouais. J'ai un fils, d'ailleurs, qui voulait même pas faire des demandes d'emploi dans des cuisines parce qu'il voulait pas porter
ça. Ah, pour ça, OK. On va voir l'air cave, mom, come on!
OK, autre sujet. Jocelyne Blouin est décédée. Jocelyne Blouin, c'est la Miss Météo de 33 ans, qui a fait 33 ans à Radio-Canada. Et on a retrouvé son premier bulletin de météo.
On remonte à 78?
1978, avec Bernard de Rome, ça roule sur le web. Écoutez ça.
Je vous présente Jocelyne Blouin, qui est météorologiste de son métier. Jocelyne, à tous les soirs, sera en studio avec nous afin de nous présenter les prévisions de la météo. On va y aller dès maintenant. Bonsoir, Jocelyne.
Bonsoir, Bernard.
Bon, d'abord, sur la carte, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on n'aperçoit pas l'ouragan Ella. Et pourtant, hier, il me semble qu'il y a certains bureaux météorologiques qui ont lancé de sévères avertissements, notamment aux habitants de la côte est de Terre-Neuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Ella s'est complètement dissipée comme ça?
Au dernier rapport météorologique, Ella est située approximativement à 700 000 au nord-est de Terre-Neuve. Hier, ce qui s'est passé, c'est que l'ouragan était près des côtes de Terre-Neuve, donc donnait des vents dans la zone de pêche de 200 000 du Canada, de 80 à 90 000 à l'heure, tandis que sur la côte est de Terre-Neuve, les vents atteignaient de 50 à 60 000 à l'heure, donc pas de pêche.
Quels sont les principaux faits à signaler, là?
On pourrait peut-être signaler, pour notre aperçu, Québec-Trois-Rivières, plus passagère l'aperçu.
Alors, il faut savoir que la carte, évidemment, il n'y a pas d'infographie. C'est une vraie carte du Canada schématisée. Et elle a une petite baguette de maîtresse d'école. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, son look n'avait absolument pas passé. Elle était, vous l'entendez, elle est compétente, elle sait de quoi elle parle. C'est vrai qu'elle est une météorologiste de métier. Sauf qu'à l'époque, à la TV, ce qu'on avait, c'était des speakerines.
Des speakerines?
Des speakerines qu'on avait.
OK.
OK, Marguerite Blais en était une. Elle présentait les émissions. Les émissions à venir, au cours des prochaines heures, vous pourrez regarder... C'était ça. Et les speakerines étaient toujours très soignées de leur apparence, un peu distinguées.
Un petit tailleur.
Petit tailleur à la Jackie Kennedy, etc. Elle arrive, elle a des espèces de grands robes à fleurs, puis des bottes qui montent très haut, les cheveux longs jusqu'en dans le bas du dos.
C'est quoi, revenait de Woodstock ou...
Ça ressemblait à ça, des grosses lunettes, pas maquillées. Honnêtement, là, je me rappelle qu'à l'époque, les gens étaient scandalisés de son apparence.
La Janis Joplin de Radio-Can.
Ouais. Et heureusement pour l'époque et heureusement pour nous, c'est quand même la compétence qui a transcendé. Et ils ont amélioré son look, ils l'ont réhabillé comme ça plaisait aux auditeurs à l'époque, là. Mais c'était une autre époque où, effectivement, là, c'est quoi cette bébite-là à la TV?
Ça m'étonne que tu me dises ça parce que je l'ai tout le temps vu bien habillée, assez chic. Puis...
Et d'ailleurs, c'est qu'elle a pas lâché la météo en lâchant Radio-Canada. Hein? Elle a contribué à mettre au point une application qui est disponible sur Google Play,
ouais.
Google Play seulement, là. Je l'ai pas trouvé dans mon dans mon iPhone, là. Mais qui fait de la météo pour les gens qui ont des affections particulières reliées à la météo, l'arthrite, etc. Okay. Le rhumatisme, le rhume des foies.
Pollen, pression atmosphérique, ouais, et compagnie.
Pour les météos sensibles. Donc, des météos plus pointues pour les météos sensibles.
Ouais, je pense même que je lui avais parlé en ondes quand elle avait lancé cette application-là. C'était en plein été, je l'avais reçu. Il faudrait que j'aille réécouter l'extrait. Mais 68 ans, c'est jeune pour partir comme ça. Puis elle a tellement fait partie de nos quotidiens. Hein.
Ouais.
On la voyait tous les soirs, systématiquement. Madame Blouin était là. Puis en 2005, Radio-Can avait eu la brillante idée de mettre des tableaux. Avec juste une petite musique.
Oui, pensais qu'on allait remplacer la météorologue par des tableaux.
Ça a duré une semaine. Jocelyne est revenue.
Encore là, la compétence a triomphé. Ça fait quand même deux fois dans sa carrière qu'elle a fait triompher la compétence. Il y a une mauvaise nouvelle pour les amateurs de vin.
Ça augmente.
Comme par hasard, juste avant la Saint-Jean-Baptiste, juste avant l'été, juste avant le moment où on va avoir le goût de déboucher quelques bonnes bouteilles de vin blanc.
C'est comme le prix du gaz avant les congés fériés, c'est la même chose. L'été arrive, troisième augmentation en un an, puis il y a quoi, 1246 vins et spiritueux qui sont visés, des augmentations de 5, 10, 25 cents. Puis quand t'aimes les spiritueux un peu plus de luxe, ben là, on parle des augmentations en dollars. Là, il donnait comme exemple le cognac Hennessy, XO. C'est une bouteille qui vaut 304,50. Fait quand même bien qu'il y a une hausse de 7,50 là-dessus, j'irai pas brailler pour les consommateurs de cognac.
Un peu moins pitié de l'amateur de cognac que de l'amateur de fumée blanche. C'est vrai que ça augmente juste de 5 cents, mais ce qui est intéressant, c'est, te rappelles-tu, Justin Trudeau nous a dit « Je peux pas taxer Netflix, j'ai promis aux consommateurs qu'il y aurait plus de taxes, que ce serait fini l'augmentation des taxes.
Ouais. »
Okay? Donc, je peux pas taxer Netflix. En réalité, la SAQ a écrit à ses fournisseurs pour dire qu'à partir du 26 mai, il y aura des nouveaux prix et que ça va augmenter à cause de quoi? À cause de la hausse des taux de droits d'accise sur les boissons alcooliques du fédéral. Donc, Justin Trudeau, qui ne peut pas taxer Netflix, il peut taxer votre bouteille de vin blanc pour cet été. Hypocrite. 11h18.